de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Des dons de 358 700 doses de vaccins COVID-19 en provenance de la France sont arrivés en Indonésie. Sinovac discute de la construction d'une usine de production de vaccins en Afrique du Sud. Le ministre des vaccins, Taro Kono, a annoncé sa candidature aux élections du premier ministre au Japon. La Russie renforce sa base militaire au Tadjikistan. 76e anniversaire de Radio République Indonésia, tenu solennellement et avec des protocoles sanitaires stricts. Charami nous présente maintenant le journal complet. La France a fait donc de 358 700 doses de vaccins AstraZeneca qui sont arrivés en Indonésie vendredi pour aider à lutter contre le COVID-19. Dans une déclaration écrite, l'ambassade de France à Jakarta a déclaré que le premier envoi faisait partie d'un total de 3 millions de doses de vaccins COVID-19 qui seraient données à l'Indonésie via le mécanisme COVAX. La France se tient aux côtés de son proche partenaire, l'Indonésie, pour poursuivre son combat contre la COVID-19. Le président français Emmanuel Macron a rappelé à la solidarité internationale que les pays développés doivent participer efficacement aux efforts visant à surmonter la pandémie. En février, le président Macron a demandé à ses partenaires du G7, du G20 et de l'Union européenne de partager, comme l'a fait la France, une partie des doses de vaccins reçues avec les 92 pays à revenus faibles et intermédiaires qui font partie de COVAX AMC. La France a été l'un des premiers pays à confirmer sa volonté de faire don de doses de vaccins sûres, efficaces et approuvées par l'Organisation mondiale de la santé, en plus de ses contributions financières. Une fabricant chinois de vaccins COVID-19, Sinovac Biotech, discute de la construction d'une usine de production de vaccins en Afrique du Sud avec des partenaires locaux. Le président directeur général du groupe Numolux, Hilton Klein, a fait ses remarques lors du lancement de l'essai mondial de phase 3 du vaccin Sinovac COVID-19 en Afrique du Sud chez les enfants et les adolescents. Cet essai clinique est le début de la construction d'une usine de fabrication de vaccins en Afrique du Sud en collaboration avec les partenaires Sinovac et le groupe Numolux qui couvrira tout le spectre des vaccinations plus qu'une simple réponse au COVID-19. Cis Longklin lors d'une conférence de presse vendredi. Le ministre japonais de la vaccination contre la COVID-19, Taro Kono, a annoncé vendredi sa candidature pour diriger le parti au pouvoir et devenir son prochain premier ministre. Kono est devenu le troisième candidat à se présenter sur la direction du Parti libéral-démocrate, ou LDP, qui s'est ouverte la semaine dernière lorsque le premier ministre Yoshihide Suga a annoncé qu'il se retirerait. Kono semble avoir le dessous sur l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Sanae Takaichi, lors des élections. Près d'un tiers des personnes interrogées dans un sondage réalisé par les médias locaux la semaine dernière ont déclaré que Kono, 58 ans, diplômé de l'Université de Georgetown, était le remplaçant le plus approprié pour Suga. Kono a affirmé avoir informé Suga de son intention de se présenter comme premier ministre quelques jours avant la conférence de presse où il a fait l'annonce officiellement. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Russie renforce sa base militaire au Tadjikistan, voisin de l'Afghanistan, plaçant 30 nouveaux chars d'ici la fin 2021, a rapporté vendredi l'agence de presse Interfax. Moscou a organisé des exercices militaires au Tadjikistan et a ajouté le matériel à la base depuis que les États-Unis ont retiré leurs troupes d'Afghanistan et la brève prise de contrôle par les talibans. C'était la plus grande expansion de la Russie à l'étranger. La Russie s'inquiète des retombées potentielles dans une zone plus large et la possibilité que des groupes extrémistes s'infiltre en Asie centrale, que Moscou considérait comme un tampon défensif pour sa région méridionale. La frontière du Tadjikistan avec l'Afghanistan s'étend sur 1344 km et principalement montagneuse. Interfax citant le commandant de l'unité de charge du district militaire central russe, Hanif Beglov, a déclaré que 30 chars modernes serait stationné à la base jusqu'à la fin de 2021 pour remplacer les anciens véhicules de combat. Le 76e anniversaire de la Radio République Indonésia, ou RRI, également connu sous le nom de Journée nationale de la radio, a été commencé par une cérémonie qui s'est déroulée dans la cour du bâtiment RRI, la rue Medan Merdeka Barat, centre de Jakarta, samedi 11 septembre 2021. Environ 40 employés ont assisté à la cérémonie qui a mis en place des protocoles sanitaires stricts dirigés par le président de l'intérim, directeur de LPP RRI, Hari Sudaryanto, dans une ambiance solennelle. Pendant ce temps, un employé, Pradipta Rahadi, sur le lieu de la cérémonie samedi, a déclaré que l'atmosphère était une pandémie, mais avec une discipline stricte du protocole sanitaire, ce jour heureux était commémoré par la grande famille de RRI et la cérémonie a été également assistée par le conseil de surveillance de RRI et du conseil d'administration. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Sampai jumpa.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Klaten, dans le centre de Java. Le tunnel, qui était une relique de l'ère hollandaise, a été découvert dans le village de Sabranglor, le district de Trucuk, la résidence de Klaten, province de Java centrale. Le responsable de la substance du centre de préservation du patrimoine culturel de la province centre de Java, Denny Wahyu Hidayat à Klaten, a déclaré mercredi dernier que d'un point de vue physique, le tunnel était une relique du gouvernement néerlandais. Il estime que le tunnel était un canal d'eau étant donné que la région de Trucuk était autrefois célébrée pour la culture du tabac. Les nouvelles suivantes sont venues de la ville de Batu, dans l'est de Java. Deux destinations touristiques de la ville de Batu, dans l'est de Java, mèneront immédiatement des essais opérationnels et seront ouvertes aux touristes lors de la mise en œuvre des restrictions d'activité communautaire ou PPKM de niveau 3. Le chef de l'Office du tourisme de la ville de Batu, Arif Asidik, dans la ville de Batu mercredi dernier, a déclaré que deux destinations touristiques étaient Jatim Park Zoo ou Batu Secret Zoo et le parc de loisirs Selecta de la ville de Batu. Selon Arif, ces deux destinations touristiques ont répondu à un certain nombre d'exigences, dont le protocole de propreté, de santé, de sécurité et de durabilité de l'environnement. Tous les employés ont également reçu la vaccination COVID-19, disposent des installations et des infrastructures pour mettre en œuvre des protocoles de santé et utilisent l'application Peduli Lindung. Les dernières nouvelles sont venues de Jakarta. Le gouvernement provincial de DKI Jakarta a mené mercredi dernier un essai d'ouverture au public des deux attractions touristiques, à savoir Ancol et Taman Mini Indonesia Indah. Cela a été fait après que le gouvernement a de nouveau assoupli les règles d'application de restrictions d'activité communautaire du niveau 3 dans la capitale. Le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan, a publié un décret du gouverneur sur les règles d'application des restrictions d'activité communautaire du niveau 3 qui réglemente l'essai d'ouverture de certaines attractions touristiques. Dans le dernier décret du gouverneur de Jakarta, les attractions touristiques sont tenues de suivre les protocoles sanitaires fixés par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative et le ministère de la Santé. Auparavant, le sous-gouverneur de DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, a déclaré que l'essai d'ouverture d'attractions touristiques s'était déroulé par étapes, en commençant par des essais d'ouverture de restaurants et de cafés aux centres commerciaux. Chers amis, c'était la rubrique Les nouvelles de l'Indonésie.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz International de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voines.id. Bonne chance!
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui, 11 septembre. Radio République Indonésia a été fondée le 11 septembre 1945. Radio République Indonésia a été officiellement créée le 11 septembre 1945 par des personnalités qui opéraient auparavant activement plusieurs stations de radio japonaises dans six villes. La réunion de six délégués radio, c'est Adang Kadarusman, sur la rue Menteng Dalam Jakarta a abouti à la décision de créer Radio République Indonésia en élisant le docteur Abdurrahman Saleh comme premier dirigeant général de RRI. La réunion a également abouti à une déclaration connue sous le nom de Charte du 11 septembre 1945 qui contenait trois points d'engagement aux devoirs et fonctions de RRI qui est devenu connu sous le nom de Tri-Prasetya RRI. Le 11 septembre est célébré comme la Journée nationale de la radio, avec sa devise « Une fois en R, restez en R ». RRI est toujours présent à ce jour. Le 11 septembre 2015, quatre avions civils ont été détournés. Les avions ont perpétré un attentat suicide en écrasant deux avions contre les tours jumelles de World Trade Center à New York et le Pentagone à Arlington en Virginie, alors que les passagers tentaient de prendre le contrôle du quatrième avion du vol 9-3 de United Airlines. Il s'est écrasé dans un champ près de Sankville, en Pennsylvanie, et n'a pas atteint sa cible à Washington, D.C. Selon le rapport de l'équipe d'enquête, environ 3000 personnes sont mortes dans cette attaque. 19 pirates de l'air sont venus de l'organisation Al-Qaïda. Le 11 septembre 2012, la 18e semaine nationale du sport a été inaugurée. La 18e semaine nationale du sport, ou PON, s'est tenue à Pekanbaru Riau du 11 au 20 septembre 2012. La mascotte de PON 18 est l'oiseau serindit, qui porte le nom de Bujang serindit, est un animal typique de la province de Riau. Le 9 septembre 2011, le gouvernement provincial de Riau a également inauguré le monument du comte à Ribourse pour Pont 18. La cérémonie d'ouverture de la 18e semaine nationale de sport devait initialement avoir lieu le 9 septembre 2012. Cette date a été choisie parce qu'elle coïncide avec la journée nationale de sport qui est généralement célébrée le 9 septembre. Mais la mise en œuvre a été reportée au 11 septembre 2012 en raison d'un ajustement du calendrier du président Susilo Bambang Yudhoyono qui devait initialement ouvrir officiellement le pont 18. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua dan pagi menjelang melahirkan mentari pagi dan sudahi semua prasangka. dunia berputarlah saja. Rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka. Dunia kau kan baik saja. Hujan akan tiba melahirkan pelangi. Belajar memahami masa depan. Takkah yang disimpan akan tenang melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Sudah lupakan semua derita. Doa semesta menjaga. Luka akan hilang perlahan terobati. Belajar memahami masa depan. Takkah yang disimpan akan tenang melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé « Le gouvernement indonésien encourage le développement des infrastructures gazières dans l'est de l'Indonésie. » Le gouvernement indonésien encourage le développement d'infrastructures gazières dans l'est de l'Indonésie étant donné l'abondance des sources de gaz dans la région. Pendant ce temps, actuellement, les infrastructures gazières sont principalement situées dans l'ouest de l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré le directeur général du pétrole et du gaz du ministère de l'énergie et des ressources minérales, Tutuka Ariaji, lors d'un webinaire le mercredi 8 septembre. Tutuka Ariaji a déclaré qu'à l'avenir, l'infrastructure de l'est de l'Indonésie recevra une grande attention, notamment pour l'utilisation du gaz en remplaçant du diesel. Il y a encore des régions qui utilisent l'électricité à partir de moteurs diesel. La cible, cette habitude sera changée en électricité avec un carburant plus respectueux de l'environnement, à savoir le gaz naturel liquéfié. Tutuka Ariaji a déclaré qu'il existe actuellement environ 53 projets de développement d'infrastructures gazières dans l'est de l'Indonésie, notamment la construction du mini-gazoduc, de pipeline de transport, la construction d'unités de stockage et la construction de raffineries. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales a noté ke Reserve National Potential de Gas atenye 62.400 milliards de pieds cubes avec des réserves prouvées de 43.600 milliards de pieds cubes qui pourraient être produites au cours des 20 prochaines années. Sur le potentiel gazier total, 85% se trouve dans l'est de l'Indonésie. Le développement des infrastructures est donc la clé principale. Selon Tutuka Ariyaji, le gouvernement a préparé un programme de distribution de gaz qui permet au gaz de l'est de l'Indonésie aux consommateurs de la région occidentale. Le premier schéma consiste à convertir un gaz naturel liquéfié afin qu'il puisse être transporté sur des navires, mais ce schéma nécessitera des coûts supplémentaires susceptibles d'augmenter le prix de production. Le deuxième schéma consiste à construire une infrastructure de pipeline de distribution et de transport qui relie les producteurs aux consommateurs. Mais la construction de pipeline de transport nécessite un grand investissement et la certitude des consommateurs. Le gouvernement a donc mis en place un programme de logistique de distribution dans l'est de l'Indonésie et aussi le bon transport. Outre la construction d'infrastructures dans la région orientale, le gouvernement étendra également le réseau de transport de gaz des îles de Java et Sumatra par la construction de gazoducs Cirebon-Semarang et Dumai-Seimankei. L'extension de pipeline de transport dans les deux îles devrait favoriser la croissance industrielle afin d'augmenter la croissance économique nationale. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Selalu ingin dirimu.
Visa international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.it. Bonne chance!
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel intitulé Cabuk Rambak, un plat de la ville de Solo, Java Central. La ville de Solo, dans la province centrale de Java, est la ville natale du 7e président de l'Indonésie, Joko Widodo. Solo est considéré comme un paradis culinaire, l'une des villes du pays qui est riche en délicieuses spécialités, entre autres cabuk rambak. Cabuk rambak est un fait très simple à faire. C'est assez seulement savoureux et composé de sésame grillé et de jeunes noix de coco râpées. Ajoutez ensuite les feuilles de tilleul finement émincées, l'air de chandelle, la purée de kencur et le poivre moulu, le sel et le sucre qui sont ensuite ajoutés avec des œufs. Cabuk rambak est un plat typique de la ville de Solo. Il est généralement vendu dans les villas et les quartiers depuis le matin jusqu'à midi. Ce plat se compose de riz emballé dans une feuille de cocotier qu'on appelle ketupat. Ensuite, on verse la sauce de sésame et on ajoute des kerupuks appelés karak. Ce plat est servi sur une assiette de feuilles de bananier pliées d'une manière unique appelée pincuk. Autre particularité, vous n'utiliserez pas une cuillère ou bien une fourchette, mais une petite bâtonnée. Pas d'assiette, pas de cuillère ou de fourchette. Mais alors, comment le manger? Le petit bâtonnet est enfoncé dans les morceaux de ketupat. C'est simple. Si on va acheter le cabuk rambak à Solo, vous devez vous rendre à certains endroits comme le marché de Gede, le grand marché traditionnel de Solo. En outre, le dimanche matin jusqu'au début de l'après-midi, on peut le trouver au stade Manahan. Le prix d'une portion environ 2000 jusqu'à 2500 rupiah. Chers amis, c'est le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
semoga milah garap keruh sapa angat mengenal jiwa yang tak padam derap geloranya terangi tapak hening. Terbitkan sentausa di sini.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
« Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'Indonésie en couleur, intitulée Watchdog reçoit le prix Magsaysay. La maison de production audiovisuelle d'Indonésie, Watchdog, a remporté le prix Magsaysay. Ce prix est un prix prestigieux, souvent appelé le prix Nobel asiatique. Chaque année, la Fondation Magsaysay des Philippines décerne des prix à ceux qui sont considérés comme ayant contribué dans leur domaine respectif. Décerné depuis 1958, 314 personnes et 26 organisations dans 22 pays ont reçu le prix Raymond Magsaysay, dont 28 d'Indonésie. Watchdog a reçu le prix Le Leadership Émergent dans le domaine du journalisme d'investigation. Cela fait de Watchdog la première institution à être récompensée dans la catégorie Leadership Émergent dans le prix Magsaysay. Depuis sa création en 2009, Watchdog a reproduit environ 165 épisodes documentaires et 715 longs métrages télévisés. Au début 2021, Watchdog a également reçu le prix Gwangju pour les droits de l'homme. En outre, 45 œuvres vidéo commerciales et non commerciales appartenant à Watchdog ont également reçu divers autres prix. Watchdog n'est pas le seul représentant indonésien à avoir reçu le prix Magsaysay. Un certain nombre d'individus et d'organisations d'Indonésie qui ont reçu le prix Magsaysay dans diverses catégories, dont Mohtar Lubis en 1958, Ali Sadikin en 1971, Abdurrahman Wahid en 1993, Pramudia Anantatur en 1995, Ahmad Syafi'i Ma'arif en 2008 et la Commission d'éradication de la corruption ou KPK en 2013. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Thank you.
Prix international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.it. Bonne chance!
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical avec moi Tiwi. Dans cette édition, nous présentons une chanson pop de Kroncong dont le titre est Cinta Kita, ou en français Notre Amour, chanté par Hetty Kusendang. La chanson intitulée Cinta Kita a été composée par M. Nasir et Yungki RM, qui a été popularisée par Inka Christy en duo avec la chanteuse malaisienne Amy Search en 1991. Cette chanson raconte du pouvoir de l'amour entre deux personnes qui ne veulent pas être séparées par n'importe quoi qu'il arrive. Cette chanson a ensuite été chantée par Hetty Kusendang, dont le genre est Kroncong. Bon, chers auditeurs, voici Hetty Kusendang avec la chanson pop Kroncong intitulée Cinta Kita ou en français Notre Amour. Bonne écoute!
Demi cintaku padamu, kemanapun ikut denganmu, walaupun harus ku terjang lautan bara. Thank you.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.